time will come up when the winds will stop and the breeze will cease.
Cold beneath my skin and they're trembling with rage.
Oxford town,
I'll make you wild.
Everybody's got the head bowed down. Sun don't shine.
Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de ses projets de recherche sur la dictée, l'oralité et les dispositifs d'enregistrement de la voix, le Laboratoire sur les récits du soi mobile, affilié au département de littérature et de langue du monde de l'Université de Montréal, présente Bob Dylan, De l'enchantement à la cruauté, un balado en 6 épisodes. Cette semaine, on sera accompagné de Maxime Catelier, poète, essayiste, romancier, qui a fait paraître notamment Le temps présent en 2018 chez Boréal, ou plus récemment Le monde d'avant à l'automne 2021 à l'autre cravant. Avec toi, Maxime, on va explorer l'œuvre de Dylan sous l'angle de la trahison, notamment par le biais de tes propres traductions, trahison de tes chansons de Dylan, des versions que tu as pu, entre autres, interpréter en mars 2022 au cours d'un spectacle conjoint avec Myriam Gendron.
Ouais.
Bonjour, Maxime, merci d'être avec nous.
Salut, salut, ça fait plaisir.
On est aussi en compagnie de Samuel Elena, étudiant en doctorat en littérature comparée, avec qui on va pouvoir discuter de la plasticité du personnage de Dylan à travers quelques-unes de ses apparitions cinématographiques.
Oui, bonjour à toutes et à tous.
Bonjour, Samuel. D'abord, Maxime, est-ce que tu voudrais nous parler un peu de ton processus de traduction, trahison? Qu'est-ce qui t'a mené à ce processus d'adaptation?
Ouais, ben c'est... je suis passionné par l'œuvre de Dylan depuis que je suis assez jeune. J'ai écouté beaucoup sa musique. J'ai toujours eu un rapport à la musique qui est très versé dans le texte, je dirais. J'ai comme on dirait que le texte colle dans mon esprit. Donc, c'est sûr que Dylan, c'était quelque chose pour moi qui était très spécial parce que justement, il y avait quelque chose qui se passait entre sa musique et le texte qui me fascinait, qui me fascine depuis longtemps. Mais moi-même, j'essaie de jouer un peu de musique. Puis, en essayant de jouer du Dylan, je me suis fait dire par une amie, je salue Kate d'ailleurs, de m'avoir fait ce commentaire, comme quoi c'était pas très pertinent de rejouer Dylan, tu sais, de le rejouer dans son texte en anglais comme ça. L'original est bien meilleur. Hein? Donc, je me suis mis à m'amuser, à essayer de traduire en français, puis dans un français assez proche de l'oralité québécoise. Là, c'est dans une espèce de mélange de littérarité puis d'oralité, un peu. Puis, je me suis rendu compte en le faisant que je n'étais pas capable de traduire. Je veux dire, les références tombaient à plat. Tu sais, la première que je me suis essayé, c'est Desolation Row, qui est une immense pièce fleuve d'11 minutes qui termine l'album Highway 61. Et là, je me rendais compte que ça n'avait aucun sens d'essayer de traduire ce truc-là. Donc, je me suis dit, OK, je vais simplement transposer l'action dans un endroit que je connais. Donc là, je vais pouvoir l'animer avec les personnages que je veux, tu sais. Donc, le Desolation Row, évidemment, c'est une référence à Kerouac, c'est les anges de la désolation et tout. Mais en même temps, sûrement que c'est inspiré par... on dit que ça a été inspiré à Dylan par la rue principale de où il a grandi, là, Duluth, Minnesota, je pense, en tout cas. Il commence la pièce en disant « They're selling postcards from the hanging ». Donc, il semblerait qu'au début du siècle, il y avait des cartes postales au Minnesota qui représentaient des pendaisons comme une espèce d'événement. C'est comme ça que les gens, je sais pas... c'était comme leur passe-temps, je sais pas, en tout cas c'est un peu trash là, mais donc c'est peut-être un vieux souvenir de ça. Puis bon, moi j'habitais rue Plessis, mais près d'Ontario, puis Ontario, ben c'est une rue qui est une espèce de galerie de personnages. Alors j'ai transposé sur la rue Ontario, j'ai changé Ezra Pound puis T.S. Eliot par Denis Vanier et José Yvon. À un certain moment, je pense qu'il croise Einstein, puis qu'il joue du violon. En tout cas, je me souviens plus trop là, de cette partie-là. Puis là, je l'ai transformé dans le grand Antonio, qui, à l'époque où j'étais arrivé à Montréal, était encore là, se promenait encore des fois sur Ontario, ça arrivait. C'était plus rare que sur la rue Beaubien, là, où il y avait vraiment son quartier général. Mais donc, j'ai transposé tous ces personnages-là, puis finalement, en le faisant, je me suis rendu compte que La trahison que j'étais en train de faire en disait beaucoup plus sur moi que sur Dylan. C'était vraiment rempli de références puis de préoccupations qui étaient plutôt les miennes. Et en fait, j'utilisais sa chanson comme un genre de canevas. Comme lui a pu le faire avec les chansons traditionnelles. T'sais, des mélodies traditionnelles, certaines structures de chansons traditionnelles comme Lord Randall qui est devenu Hard Rain's Gonna Fall. Donc, j'utilisais vraiment sa chanson comme une structure. Et là, j'y mettais beaucoup de, finalement, ma propre vie. Donc ça, c'est la première que j'ai faite. Puis après avoir fait celle-là, j'en ai pas refaite pendant 10 ans. Donc, il s'est passé 10 années durant lesquelles... Je travaillais des fois un petit peu, je changeais 2-3 trucs, mais c'était vraiment Desolation Row qui était comme la seule pièce que j'avais réussi à faire, à trahir de Bob Dylan. Puis là, je crois que c'est durant... C'est pas au tout début de la pandémie, c'est un an plus tard. Donc c'est 2021, où là, pour une raison que j'ignore... J'étais seul dans mon bureau, puis je m'emmerdais un peu. On enseignait en ligne. Bon, c'était un peu déprimant. Là. J'étais tout le temps enfermé dans mon bureau. Et là, je me suis dit, je devrais en faire une autre. Puis là, j'écoutais à l'époque constamment Blood on the Tracks, qui je crois, pour moi, son chef-d'œuvre. Puis là, j'ai décidé de m'attaquer à Shelter from the Storm, qui était vraiment une pièce que j'aimais beaucoup. Et en le faisant, ben. J'ai recommencé le même processus. Finalement, cette pièce-là, je suis parti du canevas de base de Shelter from the Storm, est devenue une espèce de réflexion remplie d'images de, disons, mon historique amoureuse, ou en tout cas, clairement, toutes les images que j'utilisais, que j'avais injectées là-dedans, étaient clairement liées à ma propre espèce d'histoire sentimentale. Donc, ça s'est produit de la même chose. Puis là, en le faisant... J'ai pris goût, puis là, j'en ai fait plein d'autres. J'en ai fait une dizaine. Il y en a qui sont moins réussis, là. Mais j'en ai fait assez pour avoir un véritable projet. Puis là, j'ai parlé à mon frère qui organise au BIC les résidences du Moulin. Donc, c'est un vieux moulin qui a été transformé en atelier de réparation de bateaux par Daniel Saint-Pierre. Et Daniel, avec mon frère, ont organisé des espèces de résidences où ils invitent des musiciens à venir passer une semaine à essayer de faire un travail, de présenter un spectacle au bout de la semaine. Donc, j'ai parlé à mon frère, j'ai dit, je pense que j'ai quelque chose, j'en ai une dizaine, là, on pourrait peut-être essayer de faire quelque chose cet été avec. Et là, j'ai appelé mon ami Luc Bonin, qui fait de la chanson sous le nom d'Urbain des Bois, et Sean Cotton, qui est aussi poète. Puis je leur ai dit, ça vous tente-tu? On va passer une semaine au BIC, puis on essaie de faire quelque chose avec ça. Puis c'est ce qui s'est passé. Puis là, au bout du processus, ben là, on avait une espèce de spectacle qu'on savait pas trop quoi faire avec. Moi, j'avais pas très envie de me lancer, genre, OK, on part en tournée, ou je sais pas quoi, là, c'était pas ça, là. Mais mon amie Myriam, qui avait fait les résidences du Moulin aussi, qui est la conjointe de mon éditeur, Benoît Chaput, elle me dit, moi, je fais le Lion d'or en mars prochain. Elle dit, vous devriez ouvrir pour moi. Donc là, c'est devenu ce show-là qu'on a présenté au Lion. Donc, éventuellement, je ne sais pas trop ce qui va arriver avec ce projet-là. Je pense qu'on va essayer d'enregistrer quelque chose, là, éventuellement. Mais on est un peu des slackers. Toutes les gens impliqués dans ce projet-là, moi, Luc, Sean, maintenant Jean-Philippe Tremblay, qui nous aide pour la percussion, on ne se distingue pas par notre carriérisme. Donc, je ne sais pas exactement à quel moment ça va se faire. Là. On va le faire, c'est juste que c'est ça, dans le temps comme dans le temps.
Tu as dit quelque chose en parlant de la première chanson que tu avais faite, Desolation Row, que tu disais que c'était la seule que tu avais réussi à trahir. Puis,
ouais.
Je trouve quelque chose de vraiment intéressant, puis que j'aimerais qu'on explore peut-être un peu ensemble, cette relation entre fidélité puis trahison qui est impliqué dans tes traductions. Puis il y a une maxime classique italienne. Puis là, je te regarde, Samuel, parce que toi, pour qui l'italien est la première langue, tu vas pouvoir rire de ma prononciation, mais qui dit traduttore, traditore, qui joue sur la proximité phonétique entre traître et traducteur. Puis c'est quelque chose qui est tout à fait présent dans ton travail, de reprise à la fois dans ta reprise des textes qui... fait intervenir tes propres références très, très subjectives, ta propre narration, qui est, les villes de la Highway 61 sont remplacées par celles de la Côte-Nord, oui. Il y a une mention de ton travail de prof au cégep de Valleyfield. Puis je me demandais comment tu réfléchissais cette posture-là vis-à-vis de Dylan, dont la figure de chanteur justement populaire a été réhabilitée suite au prix Nobel par la mise en avant de son travail d'écriture. Comment est-ce que tu conçois face à Adeline cette relation entre fidélité, hommage et trahison?
Ben, en tout cas, pour faire ce travail-là, je pense que l'intérêt était dans la trahison parce que la traduction mot à mot, comme je disais tout à l'heure, n'a pas vraiment de sens. Dans le cas d'Adeline, en plus, son travail d'écriture est très lié au son. Donc, il va vraiment... Il y a certaines rimes qu'on dirait qu'il n'y a personne d'autre que lui qui peut arriver à faire rimer ces deux choses-là ensemble. Un peu comme la figure d'Eminem a pu l'être dans les années 90. Des fois, Eminem, il faisait rimer des trucs que c'est comme personne n'aurait jamais pensé à faire rimer ça ensemble. T'sais. Donc, Dylan est une figure qui peut un peu ressembler à ça. Donc, le traduire mot à mot, ça serait vraiment pire que le trahir. Donc, c'est pour ça que je me suis vraiment enfoncé dans cette espèce de trahison. Puis c'est qu'en lisant à propos de lui aussi, c'est qu'il est le premier traître. C'est ça l'affaire, c'est que le gars, premièrement, il écrit... Si tu essaies de lire à propos de sa vie, ce qu'il en dit est un mensonge permanent, ou en tout cas une affabulation. C'est quelqu'un qui avait comme ambition, et là, ça, le sort de son biographe le plus connu, là, Clinton Aylin, en parle abondamment dans la dernière biographie qu'il lui a consacrée. C'était quelqu'un qui voulait être une star du rock'n'roll, en fait. Hein, Bob Dylan, c'est en 57, 58, 59, ses héros, c'était Little Richard, c'était Buddy Holly. Et là, tout d'un coup, dans une espèce d'illumination par rapport au personnage de Woody Guthrie, il a complètement transformé son personnage. Peut-être à la faveur aussi de cette espèce de folk revival qui avait lieu autour de Dinky Town, là, qui appelle, là, l'espèce de campus qu'il y avait à Minneapolis. Donc, c'est sûr qu'il a vu cette espèce de popularité du folk et il s'est dit « Ah! » Il dit « V'là par où je vais passer, tu sais. »
Donc finalement, il y a quelque chose de pas si traditionnel ou pas si lié à une soumission à la tradition, même dans la première posture de Dylan Folk.
Oui, c'est ça. Dans sa posture folk, il est constamment influencé. Donc, évidemment, je ne veux pas dire qu'il n'a pas été véritablement passionné par Woody Guthrie. Je pense que c'est très sincère de sa part. Mais en même temps, il arrive dans ce milieu-là du folk. Il fréquente une fille qui est une militante super radicale gauche. Et donc, il l'est lui-même par la bande. Mais finalement, quand ça s'effondre, il retourne à ses premières amours rock'n'roll, puis c'est là qu'il arrive avec Bringing It All Back Home. Et pendant toute sa carrière, on dirait qu'il joue à ça. Donc, il joue à se trahir lui-même, à se transformer de personnage en personnage. Même ces derniers temps, il va jouer aussi sur son dernier disque. Là, il n'y a pas une pièce qui s'appelle Je contiens des multitudes, un truc comme ça. Oui. Donc, il y a clairement cette espèce de volonté de jamais être là où on l'attend et tout ça, donc de se trahir lui-même comme au courant de sa carrière.
La question, c'est là, comment trahir les traîtres?
Oui,
il s'est trahi tout le temps.
Ouais.
Today and tomorrow, and yesterday too, the flowers are dying like all things do. Follow me close, I'm going to Berlin, Ali. I'll lose my mind if you don't come with me. I fuss with my hair and I fight blood feuds. I contain a multitude. Got a telltale heart like Mr. Poe.
C'est, je pense que c'est pour ça que je me suis permis de le trahir autant. Ça me semblait aller de soi. Ça me semblait comme aller de soi. Il y a certaines pièces que je me suis brisé les dents dessus. Là. J'ai essayé à peu près 14 fois de traduire, traduire Like a Rolling Stone. C'est impossible. Je suis incapable. J'arrive avec rien. T'sais, parce que d'habitude, je trouve toujours il y a toujours quelque chose qui est rattaché à ma vie puis que j'arrive à injecter dans le texte qui fait que ça marche. Mettons Knocking on Heaven's Door. C'est une pièce qui est dans le film Pat Garrett and Billy the Kid, qui arrive à la fin du film, je crois. C'est au moment où Billy the Kid va mourir, hein, tué par...
Pat Garrett.
excusez. Non, tué par Pat Garrett, mais moi, je me rappelais que la première fois que... ou en tout cas, un souvenir très vif que j'ai de cette pièce-là, c'est parce que la première fois que j'étais à New York, avec Sean Cotton d'ailleurs, il va s'en souvenir lui aussi, évidemment, notre seul but, parce que lui était trop jeune pour rentrer dans un bar, hein, c'est 19 ans, je pense, donc lui devait avoir 18 à l'époque où on était à New York pour la première fois. Et là, évidemment, notre seul but d'envie, c'est de se trouver quelque chose à fumer. Parce que là, on ne peut même pas aller dans un bar. Donc, on se retrouve évidemment à Washington Square. Et on est là comme deux perdus à essayer de trouver quelqu'un qui a de l'air un peu louche, qui pourrait peut-être nous vendre quelque chose. Puis finalement, on trouve des gars qui sont en train de gratter de la guitare sur un banc. Puis il y a un vieux monsieur qui s'avance pour les écouter. Puis qui demande aux jeunes de lui jouer « Knocking on Heaven's Door ». Et là... il nous raconte qu'il a perdu son fils qui est mort durant la guerre du Vietnam, très jeune. Et pour lui, cette chanson-là parlait de ça. Et là, ça m'a fait comme, OK, finalement, c'est ça qui est complètement fou avec la chanson. C'est qu'elle a cette espèce d'ouverture dans la chanson que les gens y mettent leur vie. T'sais. Et donc là, j'ai écrit cette trahison de « Maman, je sens que je vais m'envoler ». En ayant en tête que ça parlait de quelqu'un qui décide de jeter les armes puis de dire « OK, je m'en vais d'ici, j'ai plus envie de la guerre. » Tu sais. Mais à cause de cette anecdote-là. Donc, tu sais, disons que le travail de trahison, il joue beaucoup aussi dans tu sais, le souvenir que j'ai de la pièce, qu'est-ce qui m'a marqué là-dedans puis qu'est-ce que je peux y injecter. Parce que si je peux rien y mettre, comme dans Like a Rolling Stone, ça ne fonctionne pas. Ben c'est ça, j'abandonne parce que si je peux rien mettre d'un peu de moi, ça a comme pas de sens.
Il y avait quelque chose de très intéressant que tu disais, ton ami, que tu disais, tu ne peux pas chanter Dylan, tu es en train de les trahir, tu es en train de les faire différemment. Mais c'est la même chose qui se passe à lui. Quand il vient dans ses concerts, il commence à jouer des vieilles chansons, mais c'est comme s'il faisait un cover à ses chansons. Parce qu'il chante tellement différemment de ce qu'il faisait avant, ouais. Et le public n'est jamais content.
Non, mais ça c'est la raison pour laquelle j'ai jamais été le voir en spectacle, parce que je sais que je vais être déçu. C'est une certitude. À un moment donné, tous mes amis avaient dit « OK, on s'en va tous voir Bob Dylan, je pense qu'il jouait genre, au Centre Bell ou je sais pas quoi ». Puis j'avais dit « Ah non, moi je vais pas là. C'est sûr que je vais être déçu, là, je vais être démoli. » C'est comme... Et oui, effectivement, t'entends des enregistrements live de Dylan au Budokan, là, au Japon. Il fait une version de, je pense que c'est de « I Want You », mais c'est désastreux, là. C'est comme la pire version que quelqu'un peut faire de cette chanson-là. Là. C'est comme incroyable. Puis, en même temps, tu sais, on peut saluer sa volonté, disons, de réinvention, tu sais, de ne pas vouloir rester où il est, mais bon... pour ce qui est des spectacles, en tout cas, c'est sûr que ça n'a pas toujours été heureux. T'sais. Mais il reconnaît lui-même, mettons, qu'une pièce comme All Along the Watchtower, pièce que j'ai traduite, dont j'ai fait une version aussi, que la meilleure version, c'est celle d'Hendrix. Donc, il reconnaît lui-même que la meilleure version, c'est celle d'Hendrix, et que lui-même, quand il la joue en spectacle, essaie de copier Hendrix. Parce qu'il a mieux compris la chanson que lui-même. T'sais.
Puis même dans ses premières années ou dans la première décennie de la carrière de Dylan, je veux dire, dans la tournée 65-66, là, il y a toute la controverse Going Electric, qui est la première trahison, là, où il divisait ses sets en deux, où il y avait la première partie qui était acoustique, deuxième amplifiée. Puis il y a eu toute une histoire qui est devenue vraiment mythique là, au niveau de la relation de Dylan à ses fans, qui est, je pense, qui était à Manchester. Puis au moment où commençait le deuxième set, celui qui était amplifié, il y a une personne dans la salle qui crie « Judas ».
Mais c'est à la toute fin du set, en fait. Ah. Oui, parce que c'est le Manchester Free Trade Hall, ça, c'est en mai 66. Bon, il faut dire qu'à cette époque-là, la tournée tire à sa fin. Et Dylan, selon les témoignages qu'on a, est pâle, mais genre transparent. Là. Le gars, il bouffe de l'amphétamine là, comme des bonbons. Il paraît qu'il marche, puis on a l'impression qu'il flotte. Là. Il est vraiment comme au bout du rouleau. Et c'est en plus une tournée dans laquelle il trahit son public. Donc, c'est vraiment clairement, on fait une première partie acoustique pour faire plaisir, puis après ça, on fait rentrer le band pour les faire chier. T'sais. Donc, c'est vraiment pour provoquer son public, ou en tout cas une partie de son public, disons, attaché à sa première version folk singer. Là. Et là, il va faire son set dans lequel on entend à la fois un public qui a de l'air assez enthousiaste. Il devait avoir quand même une partie du public qui embarquait dans son truc. Mais il y a toujours des bouts. Hein, tu les entends dans l'enregistrement. Il y a quand même clairement une partie du public qui est contre. Et là, il est à la toute fin de son set. Puis il s'en va jouer. Il termine par « Like a Rolling Stone » à tous les soirs. Et là, on entend clairement dans la salle quelqu'un qui lui crie « Judas ». Et il lui répond « I don't believe you, you're a liar ». Donc encore une fois, il traite son propre public de menteur. Et c'est la plus belle phrase de toutes, c'est qu'il se retourne vers son drummer, je me souviens plus du nom de son drummer, là, puis il lui dit « Play fucking loud ». Donc il y a vraiment cette espèce de volonté de s'attaquer à son public. Puis je me souviens que quand on est descendu au BIC pour faire la semaine de résidence, on a écouté ce spectacle-là au complet avant d'arriver. Et il y a quelque chose dans le set électrique, là, je ne sais pas comment décrire ça, on s'attaque à nous. Le band n'est clairement pas en train d'offrir une performance, mais de s'attaquer à son propre public. Et ça s'entend, cette espèce de rixe ou de je ne sais pas quoi. Là. Ouais.
Il y a quelque chose de drôle aussi, c'est que aussi il y a un beau segment du film de Scorsese, No Direction Home, qui montre cette partie-là du set. Puis, lorsque la personne crie Judas dans la salle, la réaction du public, c'est de rire. Mais là, je me disais, ah, waouh, c'est comme si il y a une relation entre Dylan et son public qui joue avec cette idée de la trahison, avec cette idée de la menace, de l'idée de ne pas être fidèle à sa propre version canonique. Puis, où finalement, toute la posture de Dylan et sa relation à ses fans, elle fuit beaucoup la dichotomie entre trahison et fidélité, à l'idée de décevoir comme étant celle de l'attente. Je disais, ah non, moi, je ne veux pas aller voir les shows d'Hélène parce que je sais que je vais être déçu. Mmh. Mais il y a ce jeu-là qui devient finalement très comique. Puis c'est une forme de fidélité, je trouve, à Hélène que de jouer de cette forme de déception.
Ouais, c'est sûr qu'il y a quelque chose aussi. Faut quand même se remettre en tête que le gars qui se fait traiter de Judas, qui est dans une tournée mondiale avec un band de rock'n'roll qui le gars a 26 ans, quelque chose comme ça, là. Donc, c'est sûr que faut quand même se remettre en tête que c'est un flot. C'est vraiment un flot qui est là sur un stage avec le monde à ses pieds. Puis, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il joue avec ça. Tu sais, c'est quand même. C'est assez, finalement, c'est assez logique qu'il soit baveux avec son propre public. C'est un jeune gars de 26 ans, tu sais. Complètement pété en plus. Il y a une scène vraiment célèbre là, qui a été filmée pendant cette tournée-là. C'est John Lennon et lui qui sont dans un taxi. Ça dure peut-être 15 minutes, un truc comme ça. Mais Dylan, il est détruit, là, livide, on le voit. Là. Puis, bon, Lennon est à côté comme ça, il fume des cigarettes. T'sais, bon, il a de l'air très anglais, là, t'sais, très avec une petite pointe comme ça. Puis à un certain moment, Bob Dylan, il l'écoute parler parce qu'il est sur. Lennon est en train de raconter une histoire ou je sais pas quoi. Il prononce la phrase Oh man, I wish I could talk English. Mais c'est tellement, tellement Bob Dylan, là. C'est comme. Même la langue anglaise est comme pour lui une espèce de genre de langue étrangère, tu sais.
Mais pourtant, il arrête pas de démontrer sa maîtrise complète à la fois de l'anglais, à la fois de du canon poétique. Puis c'est pour ça qu'il y a toujours une ambiguïté entre la figure de barde prophète qu'on croirait dans une totale ubiquité, qui connaît tout, qui dévoile la vérité au monde, même dans ses débuts de Protest Songs. Puis une espèce de doute quant à cette figure de prophète-là. Puis là, ça apparaît même dans son dernier album, là, je pense, dans la chanson False Prophet.
Mm-hmm. Ouais.
Il y a une drôle de phrase où il dit « I ain't no false prophet ». Puis on peut l'entendre de deux façons. La première, de dire « Ah ben, moi je suis pas de ces prophètes-là qui sont toujours faux ». Mais la deuxième, c'est « Non, je suis pas un faux prophète, je suis le vrai prophète ».
Je suis le vrai prophète, ouais.
Puis je pense qu'une des phrases suivantes, c'est « I'm first among equals, second to none ». Il y a encore toujours cette ambiguïté-là de comme « Ah, je suis comme vous, mais je suis parmi tout le monde, toutes nous autres qui sont égaux, je suis le premier ». Il y a vraiment ce jeu-là d'une demande de se faire sortir du podium.
Ouais, une demande d'iconoclaste. C'est peut-être sa grande, justement, sa, sa grande connaissance de la littérature, puis des mythes, puis de tout ça qui fait qu'il a joué de cette manière-là. Parce que si on regarde, disons, des figures de cette époque-là, Mick Jagger, tu sais, les pop stars, disons, des fameuses années 60, personne n'a vraiment joué de cette manière-là avec son propre personnage. Lui, dès le départ, il a cette volonté de créer un personnage, de se mythifier lui-même, de changer de corps, de changer de costume. Donc, il y a peut-être là, justement, une volonté quasiment littéraire dans cette espèce de création de personnage chez lui. Ouais.
I don't believe you. You're a liar.
Peut-être de revenir à un article que tu as écrit dans Le Devoir au lendemain du prix Nobel de Dylan, parce qu'il y avait beaucoup une espèce de controverse, là, beaucoup de critiques qui en venaient pas, que Dylan ait gagné alors qu'il ne s'inscrit pas dans une espèce de posture classique de poète. Mm-hmm. Puis tu écrivais, je vais te citer avec vraiment une totale fidélité moi-même, « La volonté de séparation entre le champ littéraire et le champ musical est avant tout une volonté de séparer les spectacles pour éviter que le public ne se retrouve libre d'errer entre les scènes pour découvrir les paroles qui ne trouvent ni page ni planche pour s'exprimer. » Puis j'étais curieux de savoir, toi, dans ta propre pratique d'écriture, comment est-ce que le monde musical ou le monde de l'oralité, de la dictée, intervient dans ton écriture?
Ah oui, définitivement. Mais c'est sûr que cette phrase-là, je la réentends, puis je sais ce que je voulais dire, puis peut-être que je n'ai pas réussi à exprimer exactement ce que je voulais dire, mais c'est proche, disons. C'est assez proche de ce que je voulais dire. Mais il y a quand même, dans la volonté de segmenter les arts, comme une volonté que chacun ait leur petit système de reconnaissance à eux. Hein? Donc, la danse, les arts visuels, tu sais, tout ça avec leur petit système de reconnaissance. Donc, quand quelqu'un arrive un peu de nulle part puis vient s'arroger comme, tu sais, c'est la plus haute reconnaissance en plus qu'on connaît dans le domaine littéraire, là, le prix Nobel, et ça choque, tu sais. Mais moi, dans ma pratique, j'ai été influencé parfois beaucoup plus par certains musiciens que par des œuvres littéraires. Je pense que c'est un des premiers livres de poésie que j'ai publié, « Bande de neige », où je cite Jacques Bertrand Junior. Jacques Bertrand Junior, c'est... Bon, comment le décrire? C'est quelqu'un qui est surtout un musicien, qui a fait du rock, plusieurs... un autre aussi qui change constamment de forme. Parce que chacun de ses projets, à chaque fois qu'il pourrait connaître le succès avec un projet, il change de nom. Donc, Jérémy Mourin était devenu une espèce de band culte à une certaine époque à Montréal, dans les scènes rock. Et il a changé de nom, il est devenu Coucoupé. D'ailleurs, Coucoupé, qui est clairement une référence à la fin du poème Zone d'Apollinaire. Donc, on voit qu'il y a quand même une certaine culture littéraire qui entre en jeu là, dans le travail de Jacques. Et le dernier projet qu'il a fait s'appelle le Collège d'ingénierie à l'œil. Donc, mais cette personne-là m'a vraiment beaucoup influencé, notamment parce que sous des dehors d'histrion, tu sais, qui est sur une scène, qui jette de la bière partout, qui se pitche dans la foule et tout ça, il y a un travail littéraire dans l'écriture de ces chansons qui est incroyable. Puis des fois, je pense qu'il y a dû passer, des fois, il a passé 10 ans sur une chanson, là, tu sais, c'est comme des textes qui sont vraiment écrits très patiemment, mais ça m'a beaucoup influencé. Donc, c'est sûr que puisque quand je suis arrivé à Montréal, disons que le milieu littéraire, je sais pas comment dire ça, je peux pas vraiment être gentil en disant cette phrase-là, mais c'était un peu mort, c'était légèrement mort, OK? Tu sais, t'avais des salons du livre, t'avais Métropolis Bleu, t'avais plein d'espèces d'événements, disons, très officiels. Dans l'officieux, tu avais des lectures un peu, mais c'était quand même... On sentait qu'on était dans une période de transition. Je pense qu'il y a quelque chose qui allait se passer éventuellement, mais c'était un peu vieux. C'était, je dirais, vieux jeu, peut-être. Donc, c'est sûr que nous, on est arrivés, puis on a fait comme... Ouais, c'est pas là qu'on va trouver à comme exulter notre jeunesse, ou je sais pas quoi. Donc, on s'est retrouvés dans les bars où... Il y avait du rock'n'roll, on s'est retrouvés devant les Georges Leningrad, puis on s'est dit « Ah, tiens, ça c'est comme Dada, mais 100 ans plus tard. » Tu sais, des trucs comme ça que, clairement, c'était ça qui nous intéressait, tu sais. Et non pas, bon, la publication en revue, les petites lectures de 3 minutes au Festival de poésie de Trois-Rivières, je veux dire, c'était l'ennui mortel, là. Donc, ouais, j'ai été chercher beaucoup, beaucoup d'influence et tout ça dans ce milieu-là, ouais.
Je sais qu'aujourd'hui, tu as amené ta guitare. Est-ce que ça te tente de nous interpréter une trahison?
Oui, oui, on peut essayer de s'installer, là, génial. De faire ça.
Merci, merci.
Alors, je vais juste la présenter, tant qu'à faire. Hard Rain Gonna Fall, c'est une pièce assez connue de Bob Dylan. La légende voudrait que ce soit une chanson dans laquelle il a mis comme 20 chansons. C'est comme une espèce de melting pot, puisqu'elle est sortie un peu en même temps que la crise des missiles cubains. On avait l'impression que c'était une espèce de chanson de fin du monde, ou en tout cas, elle en est venue à signifier ça. Donc moi, en l'adaptant, premièrement, ben, je ne pouvais pas vraiment prendre le rôle qu'il prend du jeune homme, là, parce que c'est « Where have you been, my darling young one ». La seule personne assez jeune à qui je pouvais m'adresser, c'est mon fils de 7 ans, donc c'est à lui que je parle. Dans la traduction, j'en ai fait. Passablement trahi, quand même, qui s'appelle et c'est le monde qui court à sa perte. D'où c'est que t'arrives, mon petit Léonard? D'où c'est que t'arrives, mon petit trésor? J'ai traversé à pied une ville qui dort jamais. J'ai fait du pouce dans le bout de Chapet. J'ai cherché du feu dans une banlieue déserte. Je me suis arrêté au bord d'une fenêtre ouverte. J'ai tourné en rond dans le cœur d'une montagne. Et c'est le monde, et c'est le monde, et c'est le monde, et c'est le monde, c'est le monde qui court à sa perte. Et qu'est-ce que t'as vu, mon petit Léonard? Qu'est-ce que t'as vu, mon petit trésor? J'ai vu un enfant élevé par des loups. J'ai vu une pièce d'or qui rendait le monde fou. J'ai vu un arbre qui saignait par les branches. J'ai vu des travailleurs qui sciaient des planches. J'ai vu une échelle qui montait nulle part. J'ai vu des bouches parler sans savoir. J'ai vu des enfants qui jouaient à faire le mort. Et c'est le monde. Et c'est le monde, et c'est le monde, c'est le monde. C'est le monde qui court à sa perte. Et qu'est-ce qu'on te dit, mon petit Léonard? Qu'est-ce qu'on te dit, mon petit trésor? J'ai entendu l'éclair nous avertir d'avance. J'ai entendu les vagues se briser en silence. J'ai entendu les poings qui frappaient sur les mots. J'ai entendu des voix crier dans radio. J'ai entendu la faim enterrée par le bruit. J'ai entendu un pauvre mourir dans la nuit. J'ai entendu un clown pleurer son pays. Et c'est le monde, et c'est le monde, et c'est le monde, et c'est le monde. C'est le monde qui tourne à sa perte. Et qu'est-ce que t'as vu, mon petit Léonard? Qui c'est que t'as vu, mon petit trésor? Un enfant bercé par une histoire. J'ai vu un homme blanc promener son chien noir. J'ai vu une jeune femme qui brûlait par en dedans. J'ai vu une petite fille à me donner ses gants. J'ai vu un homme qui souffrait par amour. J'ai vu un autre homme qui souffrait sans amour. Et c'est le monde, et c'est le monde. Et c'est le monde, et c'est le monde. C'est le monde qui court à sa perte. Qu'est-ce tu vas faire, mon petit Léonard? Qu'est-ce tu vas faire, mon petit trésor? Je vais aller me cacher avant que ça commence à tomber. Je vais aller me perdre où personne va me trouver. Où les gens qui me cherchent ont les yeux fermés. Où les déchets qu'on jette dans l'eau sont retrouvés. Où le feu des maisons se transforme en prison. Où la face du coupable change toujours de nom. Où on entend la fin de nos âmes fatiguées. Où les couleurs sont grises et nulle part où aller. Et je le dis comme je le pense, comme ça vient, comme ça sort. Si je pouvais l'envoyer dans les airs comme un sort. En regardant la marée sous mes pieds qui remonte. Je l'ai appris par cœur pour le dire à tout le monde. Et c'est le monde, et c'est le monde. Et c'est le monde, et c'est le monde. C'est le monde qui court à sa perte. J'ai failli pas l'échapper.
Oh, where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of 12 misty mountains. I've walked and I crawled on 6 crooked highways. I've stepped in the middle of 7 sad forests. I've been out in front of a dozen dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain you're gonna fall. Oh, what did you see, my blue-eyed son?
Pour le prochain segment, Samuel, je sais que tu t'es intéressé aux tactiques que Dylan entreprend pour fuir la cristallisation de sa persona, claire, balisée, puis la façon dont cette malléabilité-là de la figure de Dylan s'est imposée au cinéma. Comment est-ce que tu observes cette plasticité-là de Dylan?
Tout d'abord, je voulais dire que c'est très beau d'être ici, parce que vous êtes très sérieux, vous le prononcez très, très, très bien. Est-ce que tu peux le prononcer encore une fois, Thomas? Bob?
Dylan.
Alors que c'est pour moi et pour la grande partie des italophones et des hispanophones, c'est Bob Dylan. Et je pense que je vais le garder comme ça. Je l'ai toujours entendu comme ça, même à la radio. Et je vais le garder comme ça, déterritorialisé, mais avec affection. Ça signifie quelque chose pour moi, Bob Dylan, alors que Bob Dylan, ça, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Par contre, ce que j'ai dû changer, c'est l'image que j'avais de Bob Dylan. Je le connaissais comme argument des discussions, le prix Nobel de 2016, octroyé à un chanteur. Ça fait beaucoup parler, ça fait beaucoup de bruit dans les milieux académiques à tendance conservatrice. Et je le connaissais surtout comme chanteur folk. C'était moins le genre en soi que ce que ce genre représentait. Et j'avais dans la tête cette image très héroïque d'un jeune de 20 ans, avec le t-shirt et les blue jeans élimés, qui chantait avec sa voix nasale et dérangeante les injustices du monde. C'est quand d'ailleurs que Bob Dylan a arrêté d'avoir 20 ans. J'avais une idée très claire de ce que Bob Dylan il était, et ce que je ne savais pas, c'était que les temps de guitare, avec marqué dessus des Smashing Kiss fascistes, cette époque-là était désormais révolue. Je dirais même refoulé dans les États-Unis. Woody Guthrie n'était que le modèle initial, les premières paires que Bob Dylan a voulu rassembler. Puis, il a changé. Combien de paires a-t-il changé, Bob Dylan? Combien de fils a-t-il trahi tout au long de sa carrière? Il commence comme chanteur folk, tout au début en faisant des covers, puis il devient le chanteur engagé par excellence. Les visages de la jeunesse en révolte. À partir de 1965, il introduit des éléments rock. Et il ne s'agit pas seulement de la musique, mais aussi de l'apparence. Son apparence change, il porte une veste en cuir noir. Puis on le retrouve vagabond dans la Rolling Thunder Review. Et là, sur la chaîne, il porte des énormes chapeaux avec des fleurs, des chapeaux très, très colorés. Et il a un visage blanc comme dans un film muet ou un clown au cirque. En 1976, finit cette tournée énorme et collective, et seulement quelques années après, ces exhibitions exagérées, on retrouve le Dylan prophète, le Dylan pasteur qui s'est fait prosélyte à travers son art. On rentre dans les années 80, la critique appelait cette période « The Fog of the 80s », et vers la fin, commence le projet encore en acte, le Never Ending Tour, sorte de synthèse hétérogène de tous les Bob Dylan, avec la S finale, Bob Dylan, qui ont traversé l'imaginaire de son public. Symbole folk, symbole de l'engagement, symbole rock, symbole de l'extravagance, symbole de la foi. Un symbole qui finit pour ne plus symboliser grand-chose, parce que le même visage accumule trop de significations, trop de labels. Puis en 2016, Bob Dylan donne les réponses aux critiques et aux journalistes. On était toujours évasive et moqueuse. Il explique les classiques de la littérature occidentale comme un académicien. Dylan institutionnalisé en Suède. La seule constante de la carrière de Dylan est son inconstance, celle que Joe Stoff, dans son essai Stranger America, définit l'autoplasticité de Dylan, son autogénération à l'infini et en même temps ses actes d'autocannibalisme à répétition. Je reviens un peu en arrière. Le 31 octobre 1964, le très jeune Bob Dylan, il avait à l'époque 23 ans, en face de son public au New York Philharmonic Hall, confesse « It's just Halloween, I have my Bob Dylan mask on. I have my Bob Dylan mask on. » C'est dans ce genre de manifestations, dans ces auto-accusations qu'il faut, selon moi, envisager l'art de se produire du chanteur. Revenons au début. La toute première chanson écrite par Dylan est un hommage à Woody Guthrie, « Song to Woody ». Le premier père artistique, qui était désormais à l'époque très malade, dans les années 60, et auquel un jeune inconnu, Dylan, rendait visite fréquemment. Guthrie appartient à la génération héroïque de la musique folk. C'est le radical et combattant pour un socialisme au Nord d'Amérique. Au cœur de l'art de Guthrie, il y a la valeur de l'authenticité, qui se manifeste dans les vagabondages, la haine pour les riches, une vie vécue dans la boue et chantée avec férocité. Il chante les hors de la loi et il vit aux marges du socialement accepté. Woody Guthrie, il est ce qu'il chante. Il n'est pas un symbole. Quand Dylan commence sa carrière, il essaie de faire la même chose. Mais il se rend compte que le régime capitalisme a acquis la malléabilité qui lui est propre encore aujourd'hui. Il y a plein de niches tolérées, prévues et même provoquées. On peut bien être contre parce qu'on va au supermarché des jeans élimés. Être authentique n'est plus, comme l'était à l'époque des folk singers de l'almanach, se battre et témoigner des imprévus du système, représenter le laisser d'un côté. Bob Dylan a dû s'en rendre compte tôt. Et puis il n'a fait, tout au long de sa carrière, que se battre contre la fossilisation de son image. Il devenait le symbole d'un mouvement, d'une idée, même d'un style, et puis il les trahissait. Il s'inventait à nouveau. Il s'inventait ailleurs. Si on cherche Dylan, il est toujours ailleurs. Il est déjà ailleurs. En effet, son authenticité passe par l'être tout le temps hors temps. Ce qui est une drôle de façon d'exister pour un musicien, d'être toujours hors temps. Et je termine avec cette image tirée du premier film dans lequel Dylan a participé comme acteur, Pat Garr et Billy the Kid, film de 1973. Bob Dylan, après l'accident en moto, en 1966, il n'avait plus fait de tournée, seulement quelques apparitions assez rares. Et puis ses films, où il apparaît comme chanteur et pour la première fois comme acteur. Mais il faut le dire, un acteur dont la performance n'est pas particulièrement brillante. Déjà, si nous transcrivons ces dialogues, mais nous pouvons remplir maximum 2-3 pages. Dylan n'est pas le personnage principal. Il recouvre un rôle secondaire, ce qui doit être une expérience super intéressante pour une superstar comme lui. S'il a plus de mots, il a encore moins d'expression faciale, une mimique réduite à une seule expression qu'il garde pendant toute la pellicule, invariée. Quand il tue un homme avec son couteau, au début du film, il semble qu'avec ce couteau, il vienne de tartiner du pain avec le beurre, et quand il donne l'adieu au chef qu'il a choisi de suivre, qui pour un moment semble s'en aller à jamais pour fuir la justice, eh bien, son visage est toujours le même. Il tartine du beurre tout au long du film. Le personnage qu'il interprète s'appelle Elias, et quand quelqu'un lui demande « Elias what ?», il répond « Elias anything you wish ». La dissolution du personnage, la dénonce de l'artifice qui le rend envisageable, dans le sens qui rend évidente la masque et donc permet d'y voir à travers. Il y a une deuxième chaîne, car elle seule utilise la plus grande partie des mots concédés au personnage d'Elias, Wara Dillon. Pat Garen, le méchant du film, trouve les compagnons de Billy the Kid, parmi lesquels Elias. Il laisse mort ou évanouit tout le monde, sauf Elias, qui est envoyé à lire des étiquettes des produits en boîte. Pour 3 minutes, derrière la chaîne principale, on entend la voix de Dillon qui lit haricot, oignon, tabac, tomate, tomate, tabac, haricot, oignon, pour 3 minutes. 3 minutes, c'est long. Je ne suis pas sûr si Dillon était conscient à l'époque de ce qu'il était en train de se passer. Mais Sam Peckinpah, le réalisateur, sait très bien que le public, en regardant la pellicule, il ne voit pas Elias, mais il voit le trop connu Dillon. Et en lui faisant lire les étiquettes, il rend insignifiant le sens des mots d'un personnage dont le nom, Elias, est en effet la négation de son propre, d'un nom propre. La vanité de l'apparaître qui pouvait être contrecarré seulement par une assomption totale et consciente de la vanité de sa, et sa dénonciation. Je vais répéter cette phrase. La vanité de l'apparaître qui pouvait être contrecarrée seulement par une assomption totale et consciente de la vanité et sa dénonciation. Dillon fera de la construction et de la déconstruction de son image sa façon de vivre l'authenticité. Je suis vrai parce que je vous avoue que je suis faux. I have my Bob Dylan mask on. Quand je prenais ces notes pour l'intervention dans les balados, c'était la fin de novembre. Pendant ces mêmes semaines, les lettres d'amour qu'un jeune inconnu, Robert Zimmerman, écrivait à sa copine de l'époque du lycée, ces lettres d'un inconnu ont été vendues pour 760 000 $. La façon que Dylan a trouvée pour rester authentique dans ses systèmes a été de se vendre à morceaux, tout en déclarant que chaque morceau n'était pas l'original, que l'authentique était ailleurs, qu'il allait ailleurs. The very last thing that I would want to do is to say I've been eating some art traveling too. Écrivait dans Song to Woody, sa première chanson, Bob Dylan, en 1962.
Ah, c'est assez fascinant ce que tu disais, Samuel. Je trouve qu'il y a quelque chose de... C'est drôle parce que quand on a commencé à parler pour le podcast de comment on voyait Bob Dylan, une des choses qui est venue, c'était l'idée de la ventriloquie. Que à la fois Bob Dylan prenait d'autres voix, mais à la fois qui était une espèce de figure qui permettait de faire entrer, à la fois, bon, comme tu le faisais, Maxime, la question de trahir, de faire entrer une voix qui n'était pas la sienne. Puis c'est quelque chose qui est présent tout à fait dans son personnage de Alias dans le film de Peckinpah. C'est drôle, même dans la chanson qui est devenue hyper connue, le Knocking on Heaven's Door, mais qu'il a créé pour le film. Dès qu'il commence à chanter, la première phrase, c'est « Mama, take this badge off of me ».
Ouais.
Puis le « Mama », on l'a entendu précédemment dans le film, parce que c'est un personnage, celui du shérif, qui appelle sa femme « Mama » et qui est en train de mourir. Puis tout d'un coup, on se rend compte que celui qui chante, mais qu'on ne peut pas du tout nommer comme étant autre que Bob Dylan, c'est clair, c'est sa voix, on l'a déjà vu, ben c'est pas lui. Puis il y a toute cette idée de jeu, de où passe la voix, puis comment il devient une espèce de vecteur ou des espèces de spectres énonciateurs.
Ouais, puis la voix de Dylan, c'est quand même une construction, hein. C'est-à-dire que il n'a pas la voix. Tu sais, on l'associe toujours à cette espèce de voix nasillarde, mais c'est complètement construit, cette voix-là. D'ailleurs, il y a un sketch hilarant là d'un acteur américain qui est passé. Je me souviens plus c'est à quelle émission du soir là, mais qui il fait chacune des époques de la voix de Bob Dylan en imitation. Puis c'est complètement génial. Mais je pense que c'est Johnny Mitchell qui avait dit je pense qu'elle était un peu fâchée contre lui, en fait, là. Mais elle avait dit quelque chose comme « même sa voix est fake », tu sais. Donc, elle disait « tout est fake chez ce gars-là », tu sais. Même sa voix, c'est pas sa voix. Puis on s'en rend compte quand on écoute Nashville Skyline. Parce que là, dans Nashville Skyline, soudain, il se met à chanter comme un genre de crooner, tu sais. « If you're traveling ». Donc, c'est complètement différent. Donc, même ce qu'on associe comme étant le truc le plus authentique de lui, cette espèce de voix-là que tout le monde peut reconnaître, ben c'est fake.
Mais il y a une espèce de quête de l'authenticité chez Dylan qui est notamment menée par le côté un peu évanescent. Puis, comme on a l'impression, même en écoutant son dernier album, Rough and Rolly Wakes, que okay, là, on a atteint la vraie voix de Dylan parce qu'on la voit vieillir. Mais finalement, c'est clair que c'est un jeu aussi, c'est un jeu de lecture entre la chanson et la récitation. Puis, ce que tu amenais aussi, Samuel, c'était la question de à quel point ce caractère évanescent permet de fuir l'idée de devenir une image de marque. Puis, elle le permet pas tant que ça, finalement. Ou en tout cas, on s'attache tellement à toutes les marques qui peuvent mener à l'authenticité de Dylan. Je sais pas si vous aviez entendu, mais il y avait une controverse l'année dernière. Une controverse. Quand il vendait des premières copies de son livre, The Philosophy of Modern Music, autographiées à $600. Puis là, il y a des fans qui ont partagé des photos de leur livre très fièrement. Puis il y a des gens sur Internet qui ont commencé à comparer les signatures, puis à se dire, oh, ça, là, c'est pas fait par une main humaine. C'est Dylan qui utilise une machine pour signer ses propres livres, ce qui était finalement le cas. Mais je veux dire...
Oui, ça, c'est très Dylan.
Oui, on dirait.
C'est vraiment participer au jeu. Il a vendu énormément, mais en même temps échappé. Oui. En même temps, c'est dire, OK, vous aimez ça, vous aimez le folk, je vais faire du rock. Vous aimez le rock, je vais faire une autre chose.
Je vais faire du country. Ou...
Ouais, vous aimez ça? Bon, je vais me convertir.
Il va changer à chaque fois.
Il y a cet échange, on a parlé de Judas, mais il y a l'autre, du thème, tu peux chanter aussi des vieilles chansons qu'on lui crée depuis le public dans les années 80, quand il ne chantait que ses nouvelles chansons. Et après, il change encore, il revient.
Puis, tu sais, l'album Self-Portrait, c'est supposé être un autoportrait, mais c'est un album qui est une espèce de fouillis de plein de choses que tu peux pas reconnaître rien là-dedans. Même son visage qu'il peint lui-même sur la pochette est complètement... C'est pas une très belle peinture, faut dire. Là. Mais, il y a quelque chose dans tu parles d'authenticité et tout ça. Tu sais, son accident de moto en 66, c'est un vrai accident. C'est-à-dire, c'est un vrai accident de moto, mais il s'en sert pour disparaître. Donc, il va nourrir le mythe autour de ça. Il fait vraiment un accident, mais il se dit, bonne occasion pour finalement avoir la paix, tu sais.
Quelque chose, quand on parle de tout ça, je me donne l'impression que Dylan, il se dérobe, il fuit, mais c'est aussi par là qu'il nous laisse la possibilité de le voler, de le dérober Dylan en tant que tel, puis nous laisser la place pour... développer une posture d'interprétation, à la fois d'interprétation de reprise de ses propres chansons, mais à la fois d'interprétation de ses propres textes, où la trahison puis la fidélité, elles sont toujours jointes, toujours liées. Puis je pense qu'on le voyait très bien dans vos deux présences puis dans vos deux apparitions au podcast. Merci beaucoup.
Merci de l'invitation.
C'était vraiment un plaisir de vous avoir.
Très sympa, très joli.
Je trouve ça très chouette de développer petit à petit à travers les épisodes des postures qui sont à la fois d'une extrême fidélité, puis d'une grande méfiance par rapport à la posture d'autorité de Dylan, puis j'ai l'impression que ça le ferait peut-être bien rire.
Ouais, sûrement.
Merci beaucoup, Samuel, Maxime.
Take this badge off of me. I can't use it.